Bonsoir, merci de votre participation à cette série de cours qui s'achève ce soir par un petit jeu de mots qui a deux significations et puis qui était un petit peu cryptique. On voulait parler de deux choses différentes qui étaient des histoires de prix Nobel parce que les prix Nobel, comme vous le savez, c'est des récompenses qui sont censées aller à des scientifiques qui auraient rendu un grand service à l'humanité, et puis d'essayer d'examiner cas par cas certains services qu'ils ont rendus à l'humanité et puis d'en discuter. Le jeu de mots était aussi sur des destinées de découvertes scientifiques. Qui était l'objet du diaporama là, donc ça, on va passer ça plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas de support visuel, mais destiné dans la société, dans des publicités pour des dentifrices et des crèmes de beauté, et ce qui rentrait, voilà, les deux rentraient dans soit Nobel était toi, on était très contents, mais évidemment c'était incompréhensible quand on le savait pas. Ces grands scientifiques qui ont rendu des services à l'humanité à partir de 1901, on a regardé un petit peu leurs contributions et puis on les a sélectionnés avec des contributions un petit peu douteuse parfois, du genre, on se demande si c'est vraiment des grands services à l'humanité que d'inventer la lobotomie, par exemple. Bon, mais ça a donné un prix Nobel. Ou alors, on se demande si c'est un grand service à l'humanité que de récompenser au début du XXe siècle les théoriciens du racisme et de la hiérarchie biologique. Comme on a déjà beaucoup parlé de ça, bon, c'est par exemple Alexis Carrel, Charles Richer ou Conrad Lorenz ou James Watson, qui sont tous des prix Nobel et tous des théoriciens de la domination sociale ou alors de la hiérarchie des races. D'autres qui sont associés à des fraudes, mais alors ça, c'est des choses dont on a déjà parlé aussi plutôt l'année dernière. D'autres aussi qui se compromettent dans des choses pseudo-scientifiques. Merci. Des choses pseudo-scientifiques, mais on va pas se. C'est juste pour faire une énumération, pour vous dire qu'on a trouvé beaucoup de gens dont la grande contribution à l'humanité est un petit peu discutable. Je peux vous donner un exemple plus précis et puis après Vincent racontera une histoire aussi un petit peu amusante sur qui implique plusieurs prix Nobel. Là, c'est sur des scientifiques allemands. Alors, et en particulier les scientifiques allemands qui ont signé un manifeste en 1914 qui s'est appelé le Manifeste des 93. Et qui était un manifeste nationaliste. C'était juste après le déclenchement de la guerre de 14 et l'invasion de la Belgique par l'Allemagne. L'Allemagne avait violé la neutralité de la Belgique et était accusée d'exaction dans la population. Et il y a 93 intellectuels allemands dont 10 qui avaient un prix Nobel. Alors, et c'était en 1914 et les prix Nobel ont commencé en 1901. Donc ça vous donne une idée de l'importance intellectuelle de l'Allemagne à cette époque-là. Ça veut dire qu'ils ont quand même raflé pas mal de prix Nobel. Il y en avait 10 qui l'avaient déjà et il y en avait 3 dans la liste qui allaient l'avoir plus tard. Et qui ont signé ce qu'ils appelaient un appel au monde civilisé. Et il s'exprimait de cette façon-là. Alors, en qualité de représentant de la science et de l'art allemand, nous, sous-signés, protestons solennellement devant le monde civilisé contre les mensonges et les calomnies dont nos ennemis tentent de salir la juste et noble cause de l'Allemagne dans la terrible lutte qui nous a été imposée et qui ne menace rien de moins que notre existence. Il n'est pas vrai que nous avions violé criminellement la neutralité de la Belgique. Nous avons une preuve irrécusable que la France et l'Angleterre, sûres de la connivence avec la Belgique, étaient résolues à violer elles-mêmes cette neutralité. Je passe un certain nombre de proses nationalistes, de mots nationalistes, et puis il termine en disant « Croyez-nous, croyez que dans cette lutte, nous irons jusqu'au bout en peuple civilisé, en peuple auquel l'héritage d'un Goethe, d'un Beethoven ou d'un Kant est aussi sacré que son sol et son foyer. Nous vous en répondrons sur notre nom et sur notre honneur. » Voilà, signé par un certain nombre d'intellectuels. Donc, une espèce de brûlot nationaliste, de va-t-en-guerre allemand, et dans lesquels, quand même, il y avait comme signataire, qui se sentait responsable de l'image de l'armée allemande dans le monde civilisé, comme il disait, ils emploient ce terme-là, et des prix Nobel aussi bien en physique qu'en chimie ou qu'en littérature. Et c'est du coup la quasi-totalité des prix Nobel, des scientifiques, des intellectuels qui avaient le prix Nobel en Allemagne à l'époque, ont signé ce texte, le manifeste des 93, sauf un, il y en a un qui a refusé de signer. Bon, alors, il avait pas le prix Nobel à l'époque, il l'a eu plus tard, c'est Einstein, qui a estimé, ce qui était la preuve qu'on pouvait estimer, que ce manifeste représentait la capitulation de l'indépendance intellectuelle allemande, c'est-à-dire c'est une soumission de la science, la littérature et l'art en général aux visées nationalistes des gouvernements. Parmi ces signataires, ces signataires prix Nobel, parmi les signataires qui n'avaient pas encore le prix Nobel et qui allaient l'avoir plus tard, plus tôt, il y en avait un qui s'appelait Fritz Haber, qui était un chimiste, qui était juif, allemand, et qui avait inventé en 1909 un procédé de fixation d'azote de l'air. Alors l'air est en partie constitué d'azote, mais c'était très difficile de le fixer pour fabriquer de l'ammoniac. Et donc c'était très difficile, il a réussi à faire ça, et bon, la raison pour laquelle cette réussite était intéressante, c'était parce que l'ammoniac pouvait être utilisé dans la fabrication d'engrais et d'explosifs. Et ça a été effectivement utilisé comme ça. Il y a des entreprises de chimie qui se sont intéressées à ce procédé de fabrication qui porte son nom maintenant, ça s'appelle le procédé Haber, pour récupérer l'azote de l'air et puis en faire de l'ammoniac et puis en faire ensuite des engrais ou des explosifs. Et il a rapidement fait fortune parce qu'il a pris des parts dans les entreprises qui utilisaient ses inventions. Et il a signé cet appel. Alors lui, c'était un vrai nationaliste. Il était vraiment à fond derrière l'armée allemande à l'époque, à tel point que... Donc il est né en 1869. Donc en 14, il était déjà un petit peu âgé pour faire la guerre. Mais il l'a faite quand même. Il a été au front et en 1915, il a mis ses talents de scientifique au service de l'armée en inventant le gaz moutarde. Encore comme le disait Nobel lui-même, un grand service rendu à l'humanité. Non seulement il l'a inventé, mais il l'a utilisé lui-même sur les champs de bataille, en particulier à Ypres, qui est une ville de Belgique où il y a eu une des batailles célèbres de la Première Guerre mondiale, et elle est célèbre, tristement célèbre en partie parce que c'est une des premières où ont été utilisés des gaz de combat. Alors les gaz de combat étaient en partie interdits par la convention de La Haye, qui est un ancêtre de la convention de Genève sur les pratiques de la guerre, et qui interdisait d'employer des projectiles qui auraient pour but unique de répandre des gaz asphyxiants. Alors, vous l'avez vu dans le manifeste, les intellectuels allemands étaient très attachés à respecter les règles du monde civilisé, donc, et à respecter en particulier cette convention de La Haye. Donc il était interdit d'employer des projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants. Ce qu'a fait Fritz Haber, c'est de se placer sur le champ de bataille des containers de gaz moutarde, d'attendre que le vent pousse vers le camp ennemi et de les ouvrir et de balancer les gaz. Le gaz étant plus lourd que l'air, il s'est assez rapidement répandu et il a tué 5000 personnes ce jour-là. Et puis, je vous laisse imaginer, il en a blessé plusieurs dizaines de milliers d'autres et ça a continué pendant la guerre. Et donc, voilà, c'est... avec trois autres chimistes qui ont eu aussi le prix Nobel par la suite, Fritz Haber a participé au combat et puis il était très fier de cette participation. Il pensait que cette utilisation des gaz devait être systématisée beaucoup plus que ce qu'elle l'a été par les militaires. Il y avait des militaires qui étaient réticents à employer les gaz systématiquement et Haber les... considérait que si on l'avait écouté lui au lieu d'écouter ses officiers, l'Allemagne aurait sûrement gagné la guerre. Il fallait employer les moyens. C'était quasiment aussi l'avis du ministre de la Défense en 1918 à la fin de la guerre, qui disait que si l'Allemagne n'a pas succombé dès les premiers mois à la force supérieure de ses ennemis à cause du rationnement des munitions, de la dynamite et d'autres produits, cela vous revient en priorité en s'adressant à Haber. Donc il a été médaillé pour les services rendus à l'Allemagne et il a été médaillé en 1918 pour services rendus à l'humanité puisque c'est l'année où il a reçu le prix Nobel pour son invention du procédé de fixation de l'azote. Alors, par contre, après la guerre, il a quand même été poursuivi par les Alliés. En même temps qu'il a eu le prix Nobel, il a été poursuivi pour crime de guerre par les Alliés et il s'est réfugié en Suisse l'année où il a reçu le prix Nobel. Finalement, les poursuites ont été abandonnées. Il a continué sa carrière. Toujours dans une... avec une idée nationaliste, il a fait fortune avec les industries chimiques qui ont employé son procédé pour construire des engrais et des explosifs, et il a même proposé de payer lui-même les réparations réclamées par la France avec sa fortune. Il a inventé par la suite le gaz zyklon, qui lui aussi est tristement célèbre. Parce qu'une version de ce gaz-là, une variante, a été utilisée par les nazis dans les camps d'extermination. Et ça a servi en particulier à décimer toute la famille de Fritz Haber, parce que je vous rappelle que c'était un juif. Lui-même, il a échappé à ça parce qu'il est... En 1933, donc il a dû s'exiler à cause de sa qualité de juif. Alors il était désespéré de la situation parce que à la fois il était très nationaliste et donc enclin à des sympathies pour les partis nationalistes et en même temps parmi ceux que ce parti nationaliste voulait opprimer. Et il est mort pas longtemps après, en 1934. Des scientifiques qui... avaient la chance et qui ont eu le prix Nobel et qui avaient la chance de ne pas être juif et d'être dans la même situation qu'Haber ont parfois pas hésité à se compromettre avec le nazisme. C'est le cas de Philippe Lenard et Johannes Stark par exemple, qui eux c'est des prix Nobel de physique. Philippe Lenard, c'est l'inventeur des rayons cathodiques. Alors c'est peut-être grâce à lui qu'on a regardé la télé pendant un bon moment avant l'invention des écrans plats. Mais c'est aussi des gens qui ont inventé la séparation entre la supposée science aryenne et science juive. Alors ça, c'était un service rendu à l'humanité aussi, j'imagine. Et cette distinction était visée particulièrement Einstein et puis sa physique théorique, parce qu'apparemment, c'était une physique qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, parce qu'elle était faite entièrement avec des mathématiques, et ils pensaient que la physique, la vraie physique, ça c'était, dont la physique d'Einstein, c'était une physique juive, donc, et puis la vraie science devait être une science concrète, une science de l'observable, et pas du tout une science auquel on comprend rien. Bon, voilà, on vous laisse supposer laquelle a survécu, et puis de toute façon, cette distinction n'a pas survécu au nazisme. Et il n'y a pas que parmi les gens d'extrême droite qu'on a trouvé des prix Nobel avec des idées douteuses ou folkloriques. Et c'est le cas de l'histoire que peut vous raconter Vincent.
En fait, donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui, paradoxalement, parle assez peu de prix Nobel. Bon, vous allez voir pourquoi, mais bon, donc vous avez vu un prix Nobel. Enfin, quand on a un prix Nobel, finalement, c'est pour une raison qui est claire, c'est qu'on est plus intelligent que tout le monde, et du coup, on a des choses à dire sur tout, et on mérite. L'oreille de chacun sur tous les problèmes, et puis probablement si on est si intelligent et si on a tellement droit à cette oreille particulière, c'est parce que génétiquement on est bien mieux fait que les autres. Et ça, c'est une idée en fait qui a été défendu et poussé à l'extrême par un monsieur qui s'appelle Robert Graham, qui est un Américain, un ingénieur, qui était millionnaire, qui avait fait sa fortune en inventant les verres à lunettes incassables, en fait. Il a inventé des verres à lunettes à cassade, il en a fait une fortune, mais c'était aussi quelqu'un qui était très soucieux du bien de l'humanité et qui était très soucieux du déclin de l'humanité, hein, celui dont on vous a parlé plusieurs fois depuis le début des cours, celui qui est, hein, vous savez que l'invention de la médecine pour un certain nombre de personnes, pour les eugénistes, c'est un fléau en fait, parce que ça fait qu'on relâche la pression de sélection qui existe, qui s'exerce sur l'espèce humaine, et d'un coup, parce que on va permettre à des gens, à des gènes qui soi-disant seraient mauvais, voilà, des gènes de maladie, et aux porteurs de ces gènes de survivre, eh bien, on serait en train de ruiner le patrimoine génétique de l'humanité. Donc c'était ça l'idée de Graham, c'était que on est à une époque où en fait l'être humain, par son action, est en train de dégrader son propre patrimoine génétique. Et l'idée qu'il a eue, c'est l'idée de mettre en place une banque de sperme des prix Nobel. Une banque de sperme de prix Nobel à laquelle chaque femme pourrait venir s'adresser afin de pouvoir procréer un enfant qui, évidemment, aurait toutes les chances de réussir dans la vie, hein, serait bien sûr bien meilleur que n'importe quel enfant que vous pourriez faire tout seul chez vous à la maison, parce que le papa serait bien plus intelligent que la moyenne. Cette idée, c'était pas une idée qui était vraiment nouvelle, en fait. En fait, il y a un prix Nobel qui avait eu cette idée bien avant lui, un prix Nobel qui s'appelait Hermann Müller, qui a eu le prix Nobel de médecine dans les années 40, enfin en 1946, Ce qu'avait découvert Müller, c'était que les radiations, notamment les rayons X, pouvaient créer des mutations de l'ADN, enfin, en tout cas du patrimoine génétique, s'il n'avait pas forcément formulé en ces termes. Et la conclusion qu'il en avait tirée, c'était que, voilà, nécessairement, on accumulait des mutations et que il fallait, d'une manière ou d'une autre, préserver ce patrimoine. Donc, il avait proposé cette idée de mettre en place une banque de sperme dans laquelle des gens particulièrement intelligents ou des gens qui se seraient distingués aux Jeux Olympiques, etc., enfin, des gens particulièrement dont le patrimoine génétique était indiscutablement meilleur que les autres, auraient pu déposer leur sperme afin que chacune puisse choisir et avoir un enfant d'un être exceptionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Hermann Müller, il était, de manière un petit peu paradoxale, il était communiste en fait. Et puis, d'ailleurs, il avait pour projet, en fait, elle s'est jamais faite cette banque de sperme, mais il avait pour projet de notamment demander à Staline de donner son sperme. Donc ça, c'est un eugénisme qu'on dit positif en fait. C'est pas l'eugénisme dont on vous a parlé déjà, c'est-à-dire qui consiste à stériliser des enfants qui sont, enfin des gens qui seraient porteurs de mauvais gènes ou de tares, etc. C'est un eugénisme où simplement, hein, c'est un peu comme la discrimination positive. Ou simplement on encouragerait les gens qui sont porteurs de bons gènes à se reproduire plus que les autres. Et donc je reviens à Graham. Donc Graham, il avait un peu piqué cette idée-là à Müller, et à la fin des années 70, en fait, lui qui était donc très soucieux du patrimoine génétique de l'humanité, décide d'aller parler à quelques prix Nobel et de leur demander s'ils seraient d'accord pour être les premiers contributeurs de sa banque de sperme. Alors, visiblement, il en trouve, on dit entre 3 et 5, en fait, des gens qui sont pas forcément bien identifiés. Et finalement, il y en aura qu'un seul qui va véritablement donner son sperme à la banque. Ou en tout cas qu'il laissera savoir. Alors là, il y a un truc qui a peut-être pas très bien marché dans l'affaire de Graham, c'est que déjà c'était la fin des années 70 aux États-Unis, donc déjà c'était une idée un peu sulfureuse, hein, cet eugénisme positif, c'était pas forcément quelque chose qui était à la suite du nazisme, etc. Tout ce qui était ces histoires de sélection sur l'homme, de toute façon, c'était pas très très bien vu. Et il se trouve que le seul prix Nobel qu'il a trouvé pour venir participer à sa banque de sperme, c'est quelqu'un qui s'appelait William Shockley, qui est l'inventeur du transistor, donc quelqu'un qui a effectivement inventé quelque chose qui a bouleversé nos vies, mais c'était un type qui avait des vues, qui de notoriété publique avait des vues sur la question des races, des gènes, de l'intelligence, qui étaient des vues clairement d'extrême droite. Et donc, cette banque de sperme, elle a été très très vite associée dans l'idée collective à une espèce de projet, sulfureux, un peu nazi, etc. Et du coup, il y a plein d'autres gens on peut pas dire que les prix Nobel se soient présentés en masse pour donner leur sperme à la banque. Donc ça a pas marché en fait. Graham s'est pas découragé, il a cherché des nouveaux donneurs, il est allé voir. Alors il y avait un problème aussi, c'est que les prix Nobel, en général, quand ils reçoivent le prix Nobel, ils sont plus tout à fait aussi jeunes qu'ils l'ont été, Et du coup, c'était pas forcément les donneurs les plus les meilleurs, quoi. Donc il décide de se reporter un peu plus sur l'idée de Müller au départ, c'est-à-dire il va voir des sportifs, par exemple, il va voir des jeunes chercheurs qui jugent prometteurs, des étudiants en fait, des gens qui viennent d'avoir leur thèse, qui sont promis à des grandes carrières scientifiques, et puis là il trouve finalement pas mal de gens pour donner leur sperme. Alors bien évidemment le don comme dans toutes les banques de sperme, le don est anonyme. Alors la manière dont ça se passe, c'est qu'on a une description anonymisé du donneur, donc voilà, il est grand, il est beau, il est ténébreux, il a un esprit brillant, il a travaillé dans les il est plutôt mathématicien, plutôt ceci, plutôt cela, et donc les femmes peuvent venir et faire leur choix en fonction de ce critère. C'est une des seules, en fait, il y a des femmes qui expliquent qu'elles sont allées là parce que c'était une banque de sperme où on avait des informations sur les donneurs, en fait. Parce que souvent les informations sont vraiment très très minimalistes, donc là il y avait finalement une description assez complète des gens qui étaient des donneurs. Et donc en 1982, il y a un premier bébé qui naît. Ça va jusqu'en 1997, en fait, à la mort de Graham. Cette banque, il l'a vraiment porté sur ses épaules. Il faisait presque du porte à porte pour trouver des donneurs. Enfin non, mais il hantait les campus universitaires et les conférences pour essayer de trouver des donneurs. Et en fait, en 97, à sa mort, la banque finalement s'arrête et les échantillons sont détruits. Du coup, c'était une expérience assez étonnante, hein, mais c'est difficile d'en connaître le résultat. Dans les archives de la banque, il y a très peu de choses. Le nombre de bébés qui seraient nés de cette banque est estimé à environ 240-250, principalement aux États-Unis, mais aussi au-delà par le monde. Mais en fait, dans cette banque, il n'y a aucun enfant de prix Nobel. Et en fait, ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que ouais, ça n'a pas fonctionné cette expérience, parce que c'était aussi une expérience de Graham. Il demandait en fait par contrat aux gens qui venaient réclamer un don de s'engager à remplir régulièrement un compte rendu de l'évolution de l'enfant, de manière à pouvoir suivre les enfants de cette banque, et puis. Mais en fait, personne n'a jamais joué le jeu, vraiment. Donc, visiblement, il a eu très très peu d'informations de ça. Alors, il y a un enfant qui est connu, qui est un des premiers à être né, qui était effectivement un petit surdoué, qui a été très très, utilisé ou très médiatisé, en tout cas. Au début, c'était un enfant dont on dit qu'il était capable, comme nouveau-né, il était capable de battre le rythme d'une musique classique. Il savait utiliser un ordinateur à l'âge de 2 ans. Et on lui prêtait un QI de 180 quand il a été en âge de remplir des tests de QI. Et donc c'est quelqu'un, j'ai lu un article là récemment, qui est sorti en 2001 en fait. Il y a un journaliste qui a fait une étude sur cette banque et sur qui étaient les donneurs, qui étaient les familles qui s'étaient adressées à cette banque et quels étaient les enfants, et puis qui revenait sur la vie de ce garçon, donc qui a effectivement évolué de manière pas mal en réaction à ce à quoi on le destinait, mais qui a l'air d'aller bien et d'être assez équilibré quand même. Et donc c'est ouais alors il est, donc aux dernières nouvelles il était hippie dans une donc voilà il a bien tourné, il avait l'air heureux. Donc avec un kit 180 c'est peut-être la meilleure chose à faire. Non, je crois pas qu'il fume tellement de drogue, mais enfin bon, ça c'était en 2001. Je sais pas où il en est depuis. Donc voilà, ça c'était l'histoire de la. En fait, je vous ai pas dit son nom. C'était la repository for germinal choice, so, le dépôt pour un choix germinal. Et donc c'est la banque où vous pouviez vous adresser. Pour avoir un super bébé. C'est pas complètement mort ce truc parce que visiblement il existe encore deux petites banques de sperme aux États-Unis qui comme ça essaient de préserver la semence de d'hommes. Alors on aura vu hein, que de toute façon dans ces visions eugénistes là, il y a que l'homme qui compte. Hein. Après les femmes, c'est pas très très important, mais voilà, c'est forcément le patrimoine génétique du mâle qui est important à préserver. Et donc il existe, je crois, deux banques qui sont encore actives, qui sont vraiment toutes petites et sur le déclin. Alors il y en a une où vraiment ça a l'air d'être des gens bizarres qui font pas vraiment de dons, qui récoltent donc comme je disais la semence des gens exceptionnels mais qui la congèlent pour les générations à venir. Voilà, donc c'est un peu Futurama en attendant pour l'an 3000 éventuellement quand l'humanité sera vraiment sur le déclin, on pourra ressortir les stocks des génies des années 1900-2000. Voilà, donc ça c'était l'histoire de la banque de sperme des prix Nobel.
Et puis il y a d'autres idées aussi pour la conservation, parce que on a lu un article il n'y a pas longtemps qui disait que finalement les prix Nobel, qui étaient surtout des gens qui venaient des sociétés occidentales, dans laquelle il y a la médecine fait que les mutations délétères s'accumulent dans le génome, même ceux-là ils en ont un petit peu trop et que leur patrimoine génétique vaut plus rien, donc finalement il allait falloir aller le chercher dans des sociétés où la sélection naturelle joue encore son rôle, et donc dans des sociétés où il y a moins de médecine. Alors on pense à des...
C'était Lynch qui disait
c'était Lynch qui disait ça. C'est quelqu'un d'assez connu qui vient d'entrer à l'Académie des sciences américaines, et c'est pour son discours inaugural qu'il a lancé cette idée-là. Donc c'est une idée, enfin une variante de ça qui est toujours à la mode. Sinon voilà, on voulait vous montrer quelques images pour finir ce cours sur des destinées de découvertes scientifiques dans la société. Alors on va retrouver des prix Nobel, mais c'est moins le sujet. Sur trois choses, il y a l'évolution, la radioactivité et l'ADN. Comment ces découvertes-là sont représentées et récupérées de diverses façons par la société. Alors là, c'est une image de Buffon et de Lamarck qui sont deux parmi les découvreurs de la théorie de l'évolution. Et alors, c'est pour montrer que la théorie de l'évolution, on peut la voir différemment selon ses opinions politiques. Et puis, c'est quelque chose qui rentre bien dans cette série de cours sur la science et la politique. Alors, on le voit quasiment sur les images. Buffon, c'était quelqu'un d'ancien régime, un conservateur, c'était quelqu'un qui était pas du tout progressiste, tandis que... Et bon, il faut pas les comparer non plus à outrance, parce qu'ils sont pas de la même époque non plus, ils sont pas de la même génération. Ils ont l'air d'avoir le même âge, mais c'est des portraits qui... Mais ils ont quand même, en réalité, 40 ans d'écart, donc c'est aussi une histoire de, d'époque. Alors, Buffon est du 18e siècle, et puis Lamarck est plutôt de la Révolution et du 19e. Et Lamarck était très progressiste. C'était quelqu'un qui était enthousiaste pour la Révolution et puis pour l'Empire. Et alors, ils ont tous les deux inventé certaines parties de la théorie de l'évolution. Et la façon dont ils l'ont inventée, c'est quasiment un reflet de leurs opinions politiques et puis des opinions politiques de l'époque. Buffon était persuadé que, par exemple, les singes étaient des hommes dégénérés, c'est-à-dire que, il plaçait, comme quasiment tout le monde à l'époque, et puis pas mal de monde aujourd'hui, l'humanité sur une échelle des êtres, et puis elle était tout en haut de l'échelle, et puis l'évolution consistait à dégénérer à partir de cet état-là, et puis voilà, ça donnait les singes. Tandis que Lamarck voyait les choses dans l'autre sens, il voyait les choses de façon progressiste. Il pensait que l'état ancestral, c'était le singe, et puis l'humanité était l'état d'arrivée. Cette différence entre les deux visions, soit conservatrice, soit progressiste, de la science et de l'évolution, elle se retrouve assez souvent. Alors il y a des époques qui sont plutôt favorables aux idées progressistes et des époques qui sont plutôt favorables aux idées déclinistes. Et puis, pour vous reparler encore une fois de Clémence Royer et puis du progrès qu'on peut voir dans l'évolution. Clémence Royer, c'était la traductrice de l'origine des espèces, et ça c'est pour vous montrer comment elle l'a traduit en regardant juste la page de garde, la couverture du livre. Donc l'original, c'est celle de gauche, c'est l'origine des espèces par les moyens de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie, et la traduction c'est de l'origine des espèces ou des lois du progrès chez les êtres organisés, qui montrent bien que au 19e siècle il y avait des gens qui avaient envie de voir du progrès dans l'évolution, et ça se voit par ce genre aussi de petits schémas. Alors quand on a envie de voir du progrès, ben on voit le schéma du haut, et puis quand on est dans une période plutôt décliniste, ben on voit le schéma du bas, et on retrouve la vieille idée de Buffon dans les périodes déclinistes. À mon avis, on est plutôt dans une période où on a tendance à voir du déclin dans les sociétés, et du coup on se remet à penser, comme au XVIIIe siècle, que le singe descend de l'homme. Alors là, c'était suite à la découverte d'un fossile de Ardipithecus, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, et puis ils se sont rendus compte que le fossile, alors c'était juste un crâne, mais que le crâne était conforme à une stature bipède d'un individu qui aurait vécu il y a 7 millions d'années, et donc que notre ancêtre commun avec le chimpanzé aurait pu être bipède, et que donc l'évolution aurait été dans le sens de l'homme, et puis le singe qui est la version évoluée ou dégénérée si on est progressiste ou décliniste, de l'humanité. Dans ces périodes progressistes, la science a eu des effets assez, assez cocasses aussi sur la publicité. Alors, par exemple, en commercialisant des préparations au radium, il y avait beaucoup, alors j'en ai gardé quelques-unes, mais il y en avait beaucoup plus des produits qui se vantaient d'être radioactifs. C'était ça dans les années 20 ou 30, après la découverte de la radioactivité. La découverte de la dangerosité de la radioactivité, elle a suivi de peu la découverte de la radioactivité, parce que les scientifiques qui l'ont découverte ont assez souvent eu des problèmes de santé, ils ont assez souvent eu des brûlures parce qu'ils manipulaient trop des éléments radioactifs. Ils sont morts prématurément à cause de la radioactivité. Mais par contre, on était dans une période tellement progressiste qu'on a plutôt vu ça comme une grande, une, une découverte qu'on pouvait recycler partout plutôt que comme un danger. Et pas seulement dans le domaine de la publicité, ça partait des scientifiques. Par exemple, Marie Curie, qui est une de celles qui a contribué à la découverte des éléments radioactifs, l'année de sa mort, écrivait un traité de radioactivité dans lequel elle citait les applications futures thérapeutiques et médicales, comme l'ingestion de boissons, d'eau radioactive, de l'eau qui contenait du radon, ou des injections même, des injections dans les veines ou dans les muscles, de sérums qui contenaient des éléments radioactifs. Enfin, donc, elle était à moitié brûlée par les éléments qu'elle avait manipulés, mais elle pensait toujours qu'il y aurait des thérapies qui seraient fondées sur la radioactivité. Alors ça a été assez loin, hein. Il y a eu des crèmes de beauté, des poudres, les toilettes, savon, rouge à lèvres, dentifrice, avec, je vous laisse apprécier, une méthode scientifique de beauté. Vous savez tous que le radium régénère l'épiderme, et rigolez pas trop parce qu'on va arriver à l'époque contemporaine bientôt. Alors, je reste là sur... voilà, le dentifrice Thoradia, le savon Thoradia aussi, du docteur Alfred Curie, bon, qui n'avait pas de relation de parenté avec Pierre ni Marie Curie, mais bon,
il a bien joué.
Il a bien joué. Ça soigne beaucoup de choses, hein. C'est pas seulement les crèmes de beauté, on peut la science au secours de la beauté et puis au secours aussi de la médecine, on peut soigner les hémorroïdes, des préservatifs radioactifs aussi, des préservatifs au radium. Donc c'est vraiment dans tous les domaines de la vie courante. Des bains de radioactifs. Alors ça devait être hyper dangereux, hein, évidemment, de faire tout ça. Et puis ça, c'était la fameuse boisson radioactive, je pense. Ouais. Ou alors c'était ce dont on se servait pour remplir les bains. Mais il y avait les deux, hein. C'était les bains radioactifs et les boissons radioactives conseillées, et puis les sous-vêtements radioactifs aussi qui sont. Et il y en avait beaucoup d'autres, des chocolats, et puis là il y avait le radium contre les cheveux gris. Alors ça aussi, si ça servait aussi à ça. Ouais, ça c'est juste pour finir sur la radioactivité. Je résiste pas à mettre cette image qui est aussi le témoin d'un certain positivisme qui surtitre le lâchage de la première bombe atomique sur le Japon, une révolution scientifique. Donc il y avait toujours cette idée que c'était la science qui avançait, même dans les pires des catastrophes. Alors, après deux guerres mondiales, c'est quelque chose qui a un petit peu baissé, ces idées qu'on peut récupérer comme ça tous les résultats scientifiques et puis irradier la société avec. Mais c'est pas tout à fait fini parce que à l'époque contemporaine, il reste toujours des endroits où on peut faire des cures thermales dans des mines de radium, et donc passer un petit moment à l'intérieur de la mine. Pour raisons médicales. Donc ça existe toujours. Il y a toujours des gens qui pensent que ça va être bénéfique pour leur santé. Bon, c'est devenu de plus en plus rare. Alors aujourd'hui, ce qui me fait dire que...
Non, juste pour être juste avec Marie Curie, il faut avouer que la radioactivité est utilisée en thérapeutique aujourd'hui. Mais je ne sais pas si c'est à ça qu'elle pensait quand elle disait ça. Quoi.
Donc, ouais, c'est pour dire qu'on est plutôt passé dans une période décliniste. Hein, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui annoncent qu'elles sont sans la technique scientifique ou alors sans le composé. C'est un petit peu le contrepoint de toutes ces crèmes de beauté qui étaient avec de la radioactivité. Là, on préfère les choses qui sont sans parabènes, sans phénoxyéthanol ou sans bisphénol, sans bien savoir ce que c'est, mais on préfère qu'il n'y en ait pas en tout cas. Voilà, il y a aussi des vibromasseurs sans phtalates. Dans les années 30, on pouvait faire l'amour avec des préservatifs radioactifs, mais là, cette fois-ci, on préfère qu'il n'y ait pas tous ces trucs-là. Sans parabènes et puis sans OGM. Par contre, il y a des petits restes de cette histoire de crème de beauté radioactive. On trouve des crèmes déstressantes à l'ADN marin, par exemple. Alors, je ne sais pas à quel point on peut faire le parallèle entre les crèmes radioactives et les crèmes à l'ADN, mais je pense que ça relève un petit peu de la même idée, qui est qu'on a découvert quelque chose, on ne sait pas encore très bien ce que c'est, mais ça sonne bien, on pense que c'est le progrès, et donc on l'intègre dans les crèmes de beauté, et dans les shampoings et les dentifrices. Ceci dit, je ne doute pas qu'il y ait de l'ADN marin dans cette crème. Alors, ADN marin, ça ne veut pas dire... je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, en fait, l'ADN marin. C'est peut-être de l'ADN de poisson,
c'est du plancton,
ou d'algues, tout ça. En tout cas, la mer en elle-même n'a pas d'ADN. Peut-être... Il y a beaucoup d'ADN dans la mer, quand même. Donc, peut-être qu'ils ont trouvé ça... Et alors, là aussi, on peut faire tout un inventaire des crèmes qui se vantent d'avoir de l'ADN dedans. Alors là, c'est de l'ADN végétal. On peut comparer les vertus de l'ADN marin et de l'ADN végétal pour la peau. Alors évidemment, il y a de l'ADN dans les plantes, donc s'ils ont mis des plantes dans leur crème, il doit rester de l'ADN dedans. Ça ressemble pas mal au discours qu'on tenait sur la radioactivité dans les années 30. L'ADN est censé être le principe premier de chaque cellule vivante qui détient un pouvoir de croissance et de vie. Et l'ADN végétal natif, alors ça je ne sais pas très bien ce que c'est, est capable de transférer son exceptionnel pouvoir. Il y a pouvoir... ils ont testé qu'il était capable de transférer son exceptionnel pouvoir de renaissance. Ils ont une mesure de cet exceptionnel pouvoir de renaissance testé in vitro pour les cellules de la peau. Encore une crème rééquilibrante à l'ADN. Et celle-là est un petit peu spéciale parce qu'il y a de l'ARN aussi dedans. C'est encore mieux d'ajouter de l'ARN. C'est peut-être pas si idiot, on a appris qu'il y avait un résultat récent qui disait que les petits ARN de riz, quand on mange beaucoup de riz, se retrouvaient à l'intérieur de la cellule pour participer à son métabolisme. Je sais pas s'il y a une relation avec ça, mais c'était un résultat étonnant. Quand on mange beaucoup de riz, il y a une partie du génome du riz qui participe à notre métabolisme, et de plus en plus on s'aperçoit qu'on est ce qu'on mange. Je ne sais pas si ça se passera avec la même pareil avec les crèmes. C'est l'inventaire de toutes les crèmes qui se vantent d'avoir de l'ADN dedans. Et puis j'ai mis à côté un dentifrice que vous pouvez acheter en ce moment dans les supermarchés, sur lequel il y a une belle hélice qui a l'air de ressembler à de l'ADN, et puis qui ressemble pas mal à le dentifrice du docteur Curie des années 30. Voilà. Bon. Et puis la génomique peut servir à plein d'autres choses. Mais on va s'arrêter là.